Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Jean Pruvot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes lexicologue, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise, directeur éditorial des éditions Honoré Champion, mais aussi directeur de collection dans cette belle maison d'édition, 6 rue Corneille à Paris, et qui publie depuis 1874 des ouvrages d'érudition et de recherche universitaire francophone. Alors, première question à l'homme, Jean Pruvot, et au lexicologue que vous êtes, comment et d'où est née cette passion pour les dictionnaires que Philippe Geluck narre avec tant de malice dans la préface au Champion les mots sur le chat? D'où vous est née cette passion?
Alors je sais pas, c'est évidemment a posteriori qu'on essaie de comprendre d'où vient cette passion. Comme je suis reconnaissant par nature, donc je pense que c'est à la fois mes parents et un grand professeur. Alors mes parents, je sais pas s'ils étaient rationalistes, mais je le pense. En tout cas, ils étaient très rationnels et donc ils étaient professeurs de sténodactylo. Donc ils m'ont appris la sténo, j'avais 8-9 ans. La sténo, c'est les sons. Hein. La dactylo, j'avais 9-10 ans aussi, c'était les lettres au bout des doigts. L'espéranto, bon, c'était un peu particulier, mais ce sont les racines. Il avait une passion pour Larousse et le jardin des racines grecques et donc les latines que j'ai apprises aussi. Et puis j'ai rencontré, quand j'avais donc à peu près 17-18 ans, 19 ans plutôt, à l'université, Bernard Quémada, qui était un très grand professeur, directeur du Trésor de la langue française. Puis après, il y a eu mes élèves à qui, en enseignant les mots, je voyais leurs yeux briller, je les voyais progresser. Et puis, il y a la brocante. J'aimais la brocante. Et du coup, entre ce professeur qui me passionnait dans l'histoire des dictionnaires, mes élèves qui s'intéressaient aux mots, ce passé sténo, dactylo, etc. Donc, j'ai foncé du côté du lexique. J'ai commencé à collectionner les dictionnaires.
Oui, vous êtes alors vous enseignez la littérature française, le français?
Alors non, à l'époque oui, à l'époque j'étais professeur de lettres, tout d'abord dans l'enseignement technique. Aujourd'hui, ensuite, j'ai été inspecteur d'éducation nationale pendant un petit moment. J'ai été directeur d'école normale pour le premier degré. Et puis ensuite, j'ai été maître de conférence, puis professeur des universités. Et tout ça dos de dictionnaire, si je puis dire, sur l'histoire de la langue. Comme on le fait tous en travaillant la nuit, parce que, bien sûr, j'ai commencé par être professeur devant mes élèves avec beaucoup de bonheur. J'en ai un souvenir merveilleux.
Très bien. Vous dirigez donc, Jean Pruvot, depuis 2010, cette collection très attrayante, Champion les mots, dans laquelle vous offrez aux lecteurs des parcours autour de certains mots. Et comme vous en avez signé ou co-signé plusieurs, je les cite, le vin, le loup, la mer, le chat, le fromage, le train, le jardin, le cirque, les élections, j'aimerais que vous nous disiez comment et pourquoi vous retenez certains thèmes. Par goût, par centre d'intérêt, par mode, pour l'intérêt lexical?
Je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est l'idée de patrimoine. Je suis très sensible aux choses qu'on partage. Il y a des sujets sur lesquels on n'est jamais indifférent. On est pour, on est contre, on aime, on n'aime pas. Et donc, c'est un peu le cas du vin. On est ou gastronome ou non. En tout cas, le vin biologique, la politique est là, l'économie est là. Donc, tout le monde a un point de vue sur le vin. Le loup, on est du côté, évidemment, du mystère, de la fascination. Puis aujourd'hui, le loup est au centre de beaucoup de débats. C'est aussi assez international. J'aime assez que ces sujets dépassent aussi notre hexagone, la francophonie en tout cas. La mer, on est tous, évidemment, des fils ou des filles. Le chat, là aussi, on est chat ou chien. Il y a des oppositions, il y a des mystères. Et donc, ça me paraissait naturel d'évoquer le chat. Il y aura un jour le chien. Le fromage, c'est un grand débat en France. Et donc, ça commence par une faute d'orthographe, puisque c'est le fromage, en fait.
Oui, oui, le mot. Fromage.
Le train, alors le train, oui, il y a des choses qui me plaisent. Quand j'avais 8 ans, mes parents avaient une 4 chevaux. Et ce que j'ai demandé à Noël, c'était 50 km en train. Mais le train, le RER, enfin, on y est tous confrontés dans nos transports. Les élections, quand on est adulte et même enfant, déjà, commence ce côté démocratique. pratique. Le jardin, bon, bah, tout le monde est sensible au jardin. Bon, j'aime beaucoup écouter Alain Baraton. J'avais un grand-père qui m'a initié au jardin, que c'était un bonheur. Puis le cirque, bah, c'est une frustration. Peut-être, je n'y suis pas allé quand j'étais jeune. Et je trouve aussi que c'est un beau sujet. Ce que j'apprécie dans le cirque, c'est cet effort énorme pour 3 minutes de plaisir offert de ces gens qui sont en équilibre, qui mettent leur vie en danger. Le gros travail suivi d'une prestation élégante, ça me séduit aussi.
Alors, dans vos livres, vous opérez comme un double voyage, dans la langue et dans les dictionnaires. Voyage dans l'histoire aussi, où, comme tout lexicologue, vous tenez compte, me semble-t-il, de deux choses. De la synchronie, de l'histoire de la langue à une époque donnée, comme par exemple cet état de la langue qui apparaît dans le premier dictionnaire français-français de Pierre Richelet en 1630. Et puis de la diachronie, de l'histoire des mots, de leur évolution. Alors, comment avez-vous résolu dans vos ouvrages de tenir ces deux directions ? Et en un mot, qu'est-ce qui préside au principe même de votre collection ?
Alors, dans le fond, il se trouve que donc, depuis l'âge de 23-24 ans, je collectionne les dictionnaires et ce n'est pas une folie. C'est une folie. J'en ai 10 000 à peu près, donc c'est énorme. Je voulais les partager. Les dictionnaires, pour moi, ce n'est pas simplement une folie. Ce sont des objets curieux parce que ce sont des appareils photographiques ou des cartographies d'un moment. Donc, même quand il s'agit de l'histoire, le dictionnaire avant le marxisme a une vision différente. Après le marxisme, on a une autre. Après le structuralisme, même quand il s'agit de l'histoire, donc ce sont des visions différentes. Donc tout ça me fascine. Donc le dictionnaire aussi, c'est l'histoire de la langue en mouvement. Alors quand on les superpose et quand on les traque en quelque sorte depuis en gros le XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle, on voit l'évolution des sens qui est extraordinaire, qu'il s'agisse des niveaux de langue qui changent, qu'il s'agisse des référents. Il est évident que le chocolat au XVIIe, c'est pas le chocolat du XXIe, que le jardin avec sa racine qui veut dire dans le fond couvrir, pas couvrir, mais entourer, garder. Bon, ça avait du sens, ces petits murs, parce qu'il y avait les chèvres qui venaient brouter les laitues, donc il fallait le protéger. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de jardin ouvert. Donc il y a toute une évolution à travers le dictionnaire qu'on voit. Et puis, finalement, pour faire écho à la question précédente, j'ai la sensation, à travers déjà la quinzaine de thèmes qui sont proposés, de faire aussi une sorte de dictionnaire, d'offrir, dans le fond, à chacun ce que mes dictionnaires propose et partager, ça c'est quelque chose qui me paraît essentiel. C'est un trait d'union, un dictionnaire.
Parfait. Qu'est-ce qui vous amuse le plus dans l'histoire des mots et quelles sont les anecdotes les plus piquantes que vous pouvez raconter aux auditeurs de France Culture sur les mots sur lesquels vous avez travaillé ?
Alors bon, chaque thème a son mystère. Déjà dans l'étymologie, quand on regarde le vin, le loup, on ne sait pas trop d'où ça vient. On a des origines, mais l'origine première, on a beaucoup de mal. Ensuite, au fur et à mesure de la consultation du dictionnaire, on trouve des choses merveilleuses et parfois des échos. Par exemple, je ne connaissais pas les expressions anciennes puisque j'ai mes délocutions, j'ai mes citations et des mots un peu particuliers. Mais qu'est-ce qu'un vin à une oreille ? Ben, c'est un très bon vin parce qu'on penche légèrement la tête. À deux oreilles, il n'est pas bon. Et le champion des mots suivants, c'était le loup. Et je trouve là des expressions que je trouve délicieuses parce qu'elles sont typiques de la politique actuellement. Tenir le loup par les deux oreilles. C'est-à-dire, on est dans une situation difficile. Si on lâche une oreille, on va être dévoré. Comment faire ? Et on ne peut pas tenir le loup par les deux oreilles pendant très longtemps. Alors quand on prend, je ne sais pas, le fromage et qu'on vous explique qu'on en met sur l'œil pour guérir des orgelets, qu'on en met sur le pied bien dur pour tout ce qui est donc les podagres, comme on disait autrefois, quand on parle des pieds du bon Dieu pour le camembert, bon, tout ça est vraiment délicieux.
Savoureux.
Savoureux, et ça c'est un grand plaisir de se promener dans ces mots.
Très bien. Alors vous avez fait paraître chez Larousse un ouvrage sur lequel il me plaît de revenir en ce début d'année, car c'est une éphéméride. Il est intitulé, alors là c'est plus chez Champion, c'est chez Larousse, « Le journal d'un amoureux des mots », dans lequel vous parcourez l'année, je trouve que c'est une merveilleuse idée, de janvier à décembre. Janvier, premier mois de l'année, qui vient de Januarius, le mois de Janus.
Voilà, qui regarde devant, puis qui regarde derrière. C'est bien ce qu'on fait le premier de l'an. On fait un bilan, mais en même temps, on pense à l'avenir. Donc ça, c'est très joyeux. Et moi, ce qui me fait plaisir dans ce travail, c'est que il y a des mots au fur et à mesure. Alors, il y a les signes astrologiques, je ne crois pas, mais savoir que Verseau, c'est qui verse de l'eau et que c'est au moment où il y a beaucoup de pluie dans nos climats.
Bon, comme s'il y avait une rationalité. Absolument. De ces signes, voilà, du zodiaque qui ne sont pas toujours l'expression même de la rationalité.
Voilà, et c'est bien ce que je recherche aussi. C'est la raison qui se cache sous chaque mot et à chaque siècle, à chaque époque, parce qu'il y a des raisons qui sont parfois un petit peu différentes. Je prends un mot comme étudiant. Au moment du salon des étudiants, je mets sur une page l'histoire du mot étudiant. Quand je découvre que étudiante au 19e siècle, c'est la maîtresse de l'étudiant, et ce n'est en rien une étudiante au sens moderne du terme, et je me dis, mais oui, évidemment, il n'y avait pas encore d'université ouverte aux jeunes filles, il n'y avait pas encore les lycées de jeunes filles, et l'étudiante, c'est bel et bien chez Littré, maîtresse des étudiantes, et avec un côté assez péjoratif, en tout cas léger. Donc quand je découvre une cyclone ou un cyclone, on a hésité, que Littré hésite entre les deux, quand on raconte, je ne sais pas, l'automobile, par exemple, alors c'est merveilleux, parce que dans le Petit Larousse de 1905, on les voit, il y a des illustrations qui le montrent. Et dans un de mes dictionnaires, c'était rageusement entouré un automobile couvert, un automobile découvert. Parce qu'on a hésité. C'était masculin à un moment donné. L'illustration le montre. Et quelqu'un, avec raison, si je puis dire, avait rageusement ajouté un E. Mais oui, mais dans la définition, c'était au masculin.
On peut d'ailleurs signaler aux auditeurs de France Culture qui ne le voient pas que vos ouvrages chez Champion Léman sont illustré de photos, de...
Oui, que je prends moi-même. Et je fais très attention à ce que ce soit le plus possible inédit, tiré des vieux dictionnaires.
Très bien. Alors ici, peut-être sur le rapport au rationalisme, et il me semble que cette question s'impose pour le lexicologue. Vous avez d'ailleurs déjà évoqué cette question. Est-ce que vous pensez, Jean Pruvot, que c'est dans les mots que nous pensons, comme le disait Hegel, et que c'est dans la connaissance de leurs acceptions que la rationalité se sédimente ?
Alors je le crois vraiment, je suis profondément cartésien. En même temps, tout ça se touche. J'aime beaucoup, finalement, Auguste Comte. Alors, les deux se touchent pour moi, parce que quand Auguste Comte nous dit « les morts gouvernent les vivants », moi, je trouve que les mots gouvernent les vivants. Et les mots, Descartes voulait que ce soit des signes mathématiques. Bon, c'était pas possible. Donc, on a recours à des mots pour nos idées qu'on doit exprimer. Et plus on en a, mieux on les exprime, mieux les dictionnaires nous les présentent, mieux on peut avancer et penser et partager. Donc ça, je le ressens vraiment profondément. Ces mots derrière Larousse, auxquels je crois beaucoup, qui disait instruire, lui a été le tout premier à nous apprendre des mots. Le jardin des racines latines et des racines grecques, ce n'était pas fait pour les élèves qui connaissaient le latin et les grecs. C'était pour mes élèves qui, par exemple, s'insultant dans le couloir, se traitaient d'hémicéphale. Ce qui est à la fin d'un cours où j'avais expliqué qu'hémi voulait dire moitié et céphale, tête. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Ça leur donne des idées et avoir des outils pour toujours mieux penser, être plus rationaliste.
Bien sûr. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, Jean Pruvot, en dehors de cette insulte d'hémicéphale que vos étudiants ont repris, de mots dans lesquels la rationalité ou la pensée s'exprime ?
Je pense que, par exemple, des enfants ou des adolescents de 6e, 5e, à qui on explique le mot objectif, à qui on explique le mot subjectif, ils le pensent confusément. Ils ont une idée à la tête du client, pour subjectif, le chouchou, subjectif, etc. Mais si on leur donne les mots, alors ils deviennent forts. Et donc, véritablement, offrir aux élèves, comme aux adultes d'ailleurs, des mots et en connaître mieux l'histoire, pour moi, c'est vraiment un progrès fondamental entre les êtres.
Là, c'est carrément le principe même de la philosophie.
Revenir
à l'étymologie.
Philosophie, savoir que c'est aimer la sagesse, c'est déjà
voilà,
bien.
Et puis, c'est vrai que dans le cours de philosophie, on ne cesse de revenir à l'étymologie, à retravailler.
Oui, vraiment.
Les mots. Est-ce que Jean Pruvot, quand Philippe Geluck, dans cette préface, alors peut-être nous pourrions dire aussi aux auditeurs de France Culture que chacun des ouvrages de la collection Champion Les Mots est préfacé par de grands amateurs,
souvent,
avec des clins d'œil charmants.
Oui, ça a été Henriette Walter, ça a été Bernard Cerchiglini, ça a été Geluck.
Ça a été Elisabeth Badinter
pour la mer.
Bon, et alors, est-ce que Philippe Geluck, dans cette admirable préface au mot fait votre portrait, c'est une des
un
questions.
Un petit peu, oui, oui. Alors, écoutez, hier, j'ai failli ne pas venir parce qu'avec mon épouse, on a voulu pousser une bibliothèque. Elle s'est effondrée, la bibliothèque. Et donc, quand Gay-Luc évoque la brouette de dictionnaire qui lui a fait rencontrer une autre dame avec une autre brouette, bon, je pense bien à ces chocs de brouettes ou à ces bibliothèques.
Alors, j'aimerais beaucoup que nous lisions ce passage croustillant de Gay-Luc dans la préface au chat. « Jamais sans mon dictionnaire, telle est la devise de toute ma vie », dit Gay-Luc, vous imitant, à mon avis. « Je dois avouer que cela n'a pas toujours facilité mes déplacements de me trimballer avec l'Encyclopédia Britannica, surtout sur la plage. Et aussi dans les aéroports, question supplément de bagages. Même si je pouvais vérifier sur place l'orthographe exacte de carte d'embarquement, check-in ou scanner. » Bon, alors il raconte son adolescence à pousser des brouettes de dictionnaire et puis il raconte sa rencontre avec son épouse.
Qui pousse aussi une brouette de dictionnaire.
Alors je vous prie, pouvez-vous poursuivre la lecture là ? Ce n'est que plusieurs années
plus tard, je vais vous prendre, que je réussis à en attraper une dans une montée. Elle tirait une espèce de charrette ployant sous la charge d'une véritable bibliothèque ambulante. Je lui adressai la parole et compris aussitôt que nous étions faits l'un pour l'autre. La malheureuse enfant emmenait avec elle-même les mêmes ouvrages que ceux que je brouettais depuis des années.
C'est là que...
Elle avait des Robert comme je n'en avais jamais vu auparavant, et des yeux. Alors, je ne sais pas si elle était rousse, c'était la rousse avec...
C'était la rousse, certainement.
Peut-être. Et des yeux dans lesquels je me noyais immédiatement. Nous l'échâme le bout des doigts et feuilletâme quelques opuscules. Elle était belle comme un glossaire. Bon, c'est vrai que c'est très émouvant.
C'est magnifique.
Je me ressens très bien dans cette aventure.
Voilà, et je me suis dit que Philippe Gay-Luc, en racontant l'histoire de sa vie et de sa rencontre amoureuse et de son amour des chats, vous portraiturait.
Oui, je le crois, je me retrouve assez bien dans ces mots, ces montagnes de mots.
Alors, si vous deviez recommander aux auditeurs de France Culture un de vos ouvrages préférés dans la collection Champion les mots.
Alors ça, vous savez, c'est très difficile parce que je les aime tous. Donc le dernier, c'est le cirque. Bon, mais il est évident que j'aime le chat, j'aime le vin, j'aime le jardin aussi. Et puis il y a les prochains qui vont venir, la bière, le champagne et d'autres encore.
Très bien.
Et la bicyclette.
C'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission.
Merci
Jean
beaucoup.
Jean Prouvot, je vous remercie.
Merci.
Je remercie Dany Journeau et Alexandre Lee qui ont rendu possible cette émission. Je précise que le 7 février prochain se tiendra à Ivry le Salon du Livre d'Histoire des Sciences et des Techniques auquel l'Union Rationaliste participe. Et je rappelle le titre du dernier numéro de Raison Présente, « Les conflits dans les mouvements sociaux ». Je vous dis au mois prochain.